On est de retour en ondes à la radio de Saint-Félix. Vous écoutez La Rage du Peuple, une émission d'actualité sociopolitique anarchiste. Faites attention. Pourquoi faire attention? Ben, c'est bien simple. On va parler, on va aborder un sujet d'actualité qu'il reste encore à propos d'une action terroriste, si on peut l'appeler ainsi, utilisait le gouvernement d'ailleurs, qui s'est produite en France environ l'automne dernier, en fait.
Ben, en fait, l'action terroriste n'a pas eu lieu. C'est un complot terroriste auquel faisait face la France, organisé par une dangereuse nouvelle mouvance qui était en train de se développer, la mouvance anarcho-autonome.
Qui veut rien dire au final.
Bon, qui veut pas dire grand chose, mais qui veut dire ce que l'État veut faire, c'est-à-dire faire ben peur au monde.
Puis le tout s'est organisé autour d'un des inculpés qui s'appelle Julien Coupa. Et pour vous faire une présentation de l'affaire, je vais faire une lecture, si on veut, de sa biographie au travers des événements qui ont eu lieu. Julien Coupa est né le 4 juin 1974 à Bordeaux. C'est un des fondateurs en 1999 de la revue philosophique française Ticun, avec Ticun. Il a été suspecté le 15 novembre 2008 d'avoir formé une cellule invisible, selon l'expression du procureur Jean-Claude Marin, à laquelle est imputé le sabotage d'un caténaire de la ligne de TGV, qui est une action qui aurait été revendiquée par un groupe allemand le 9 novembre 2008, la journée après l'action qui a été menée. Mais bon, il est mis en examen pour direction d'une association de malfaiteurs et dégradation en relation avec une entreprise terroriste, avec 8 autres personnes qui ont été incarcérées, avec 4 d'entre elles, et qui auraient été remises en liberté dans les semaines qui ont suivi et placées sous contrôle judiciaire. Néanmoins, Julien, lui, est resté détenu pendant plus de 6 mois en prison provisoire, avant d'être à son tour libéré, placé sous contrôle judiciaire le 28 mai 2009. Cette affaire va déclencher une importante polémique. Des comités de soutien sont créés en France et à l'étranger. Une manifestation de soutien a réuni entre 1200 et 3000 personnes à Paris le 31 janvier 2009. Des intellectuels, parlementaires et autres personnes mises en cause dénoncent un montage policier, une instrumentalisation politique de l'affaire. Le quotidien Le Monde, dans son éditorial du 17 mars 2009, souligne que l'absence de flagrant délit, d'aveu et même d'indices, la justice et les enquêteurs se doivent de répondre rapidement, sauf à accréditer le sentiment croissant que cette affaire est artificielle, effectivement absurde, donc profondément choquante. C'est pour ce qui est de la présentation rapide. Dans le fond, ce qui se serait produit, selon les faits, c'est que la police le surveillait depuis quelques temps pour appartenir à des mouvements altermondialistes, blablabla. D'ailleurs, lui-même se serait installé à Tarnac, qui est une petite ville de Creuse, dans le centre de la France, où il s'était installé avec des amis pour faire, si on veut, une espèce de trip un peu hippie. Bref, il vivait en campagne, il vivait en commun.
De manière autonome, exactement. Quand même, dans son coin. Il essayait de pouvoir vivre gratuitement dans une société où tout coûte un peu cher et où, justement, essayer de mettre en place un certain idéal communiste.
Oui, exactement.
Ici et là, maintenant.
Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est aussi ça un peu la philosophie autonome. On ne va pas s'attarder tout de suite là-dessus. La police avait été attirée sur son attention par la GRC canadienne qui l'aurait aperçue, qui l'aurait vu traverser la frontière américaine sans s'enregistrer pour aller à New York rencontrer des cercles anarchistes. Et il aurait découvert dans son livre de la propagande anarchiste rien de plus commun, ainsi que des photos de Times Square à New York. Et là, ça leur a mis un peu la piste à l'oreille. Mais je veux dire, ça ne prend pas grand-chose aux policiers pour qu'ils soupçonnent le complot. Ils ont envoyé ça à la police française qui s'est mise à le filer, à le suivre, collecter des informations sur son cas. Et il aurait été, bien sûr, aperçu proche de la ligne de TGV où ce que il y aurait eu un caténaire, dans le fond, un bloc, un fer à béton de déposer sur le caténaire qui est, si on veut, la ligne électrique. Et bref, il va être arrêté, il va être détenu en justice avec sa copine Yoldine, si je me souviens bien. Et puis, il n'y a pas de preuves. Au final, c'est juste, on va apprendre... Bien sûr, dans l'immédiat, les journaux vont décrire Julien comme étant coupable, un terroriste, sectaire, anarchiste, bref, tous les qualificatifs un peu louches qu'on peut trouver pour décrire ça. Mais au final, on se rend compte, et surtout les médias se rendent compte un peu avec un goût amer dans la bouche, que c'est, il n'y a aucune preuve, en fait, que l'action a été menée par ces personnes-là, et que d'ailleurs, c'est uniquement l'affaire s'est constituée uniquement sur un dossier qui aurait été monté sur le cas de Julien Coupa par la police antiterroriste française. Et ce qui a aussi donné une saveur un peu plus polémique à la chose, c'est qu'il y, a eu, il y aurait eu un petit livre, en fait, qui aurait été produit et publié, qui s'appelle « L'insurrection qui vient ». Je pense que, Jawad, toi, tu peux nous présenter un peu ce que c'est comme livre.
Oui, exactement. Ben, en fait, l'accusation qui avait été faite que Julien Coupin ait participé à l'écriture de ce livre est plus ou moins véridique pour le moment. Et c'est pas ça qui nous intéresse, plus que le livre en tant que tel. Il a été écrit suite aux grèves importantes au niveau étudiant des CPE qui a eu lieu en 2006. À l'hiver 2006 en France, qui a été un gros mouvement social, un gros mouvement étudiant, ce qui n'avait pas été le cas depuis au moins une dizaine d'années en France. Et ce qui a aussi influencé beaucoup l'écriture de ce livre-là, c'est les émeutes de 2005 en France, de la jeunesse des banlieues, qui ont simplement foutu le feu aux banlieues et qui ont foutu le feu à la France. Et la grosse question, c'est pourquoi des jeunes, et c'est les premières émeutes sûrement de nos époques. Pourquoi il y a des émeutes? Les jeunes ne savaient pas, ils faisaient juste tout brûler. Et c'est, ça démontre justement, selon l'insurrection qui vient, le désenchantement de toute cette jeunesse-là, de toute une partie du prolétariat des travailleurs qui sont simplement désabusés face à ce système-là et qui vont juste brûler tout. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils en viennent à dire que peu à peu, l'insurrection va venir. Il y a, là-dedans, il y a toute une grande influence, entre autres situationnistes qui étaient... un groupe d'intellectuels français en mai 68 qui ont eu vraiment une grande influence sur la grève étudiante et travailleurs de mai 68 et sur le livre en général. Donc ça, c'est pas mal sur le livre dont on accuse en ce moment Julien Coupet d'avoir écrit, et donc d'appeler aux émeutes et d'appeler à l'insurrection armée à travers le monde, parce que c'est justement ce livre-là aussi a eu un peu d'influence dans les émeutes de Grèce qui ont eu cet automne. Il y a eu beaucoup de livres, entre autres, qui ont été trouvés chez des personnes qui se sont fait arrêter. Là, on disait qu'il y a eu
un complot international
en Europe.
C'est comme, ça fait longtemps que le pouvoir n'a pas eu peur d'un livre, quand même. Puis je veux dire, j'en connais des dizaines de livres un peu semblables qui appellent à l'insurrection. Puis on n'a fait pas tout un plat pour autant. Mais bon, on accuse donc Julien Coupa d'avoir écrit ce livre-là. D'ailleurs, il nie, puis semblerait-il que c'est pas lui qui l'a écrit. Néanmoins, il est d'accord, si on veut, avec la thèse. Je veux dire, il reste très proche un peu de la mouvance, puis il prend un peu les mêmes idées. Mm-hmm. Sauf qu'au final, on va le libérer sous condition... Quand est-ce qu'on va le libérer, je pense? On va libérer le 28 mai 2009. C'est à peu près plus de 6 mois après avoir été arrêté sans aucune preuve. Puis là, dans le fond, son avocate va dénoncer le fiasco judiciaire, politique de plus. Parce qu'au départ, on était tous convaincus que c'était lui le coupable. Au final, non, il n'y en est rien. C'est juste un intellectuel qui s'était poussé en campagne avec ses amis, puis qui était proche des mouvements anarchistes. Puis là, ce qui est intéressant de voir à travers toute cette histoire-là, c'est à quel point le pouvoir policier, l'État policier a pu utiliser... Puisqu'en France, on peut parler facilement d'un État policier avec le nombre de policiers puis leurs pratiques. Puis, on utilisait le spectre de l'anarchiste comme on le faisait au 19e siècle, peut-être avec raison, parce qu'à cette époque-là, le mouvement était vraiment plus revendicatif.
Ça fait un peu penser à ce qui a été fait, entre autres, dans les années 80 en France avec le groupe Action Directe, qui avait, entre autres, assassiné...
PDG de Renault.
Le PDG de Renault, mais aussi un général de l'armée française, et qu'à ce moment-là, justement, ils avaient sorti le gros procès politique, et là, l'extrême-gauche terroriste qui va venir assassiner les bourgeois partout. Et mais en même temps, je pense que c'est cette peur qui est créée à travers ce procès-là, à travers le spectre qu'ils sont en train de créer, ben ça vient pas non plus de nulle part. Ça vient aussi d'une radicalisation des manifestations en France, une radicalisation des mouvements sociaux, une radicalisation aussi de la jeunesse en tant que telle, où les actions justement de brûler les voitures qui est fait chez les jeunes de banlieue est devenu quelque chose d'habituel.
D'ailleurs, le 14 juillet dernier, plus de 500 voitures ont brûlé. C'est devenu une tradition.
Mais c'est une tradition. À chaque 14 juillet, à chaque 31 décembre, les jeunes des banlieues, ils sortent dans les rues et ils vont brûler brûler ce qui est autour d'eux. Et pourquoi? Et de plus en plus, c'est plus juste brûler les voitures du monde, des pauvres qui habitent à côté d'eux, du monde des travailleurs comme eux, qui habitent autour d'eux. Maintenant, ils s'en prennent ils s'en prennent aux policiers et ça devient beaucoup plus une attaque à une confrontation entre policiers et jeunes. Et entre autres, ils développent des nouvelles armes là, dans les médias français. Maintenant, ils font peur. Les jeunes s'arment de mortiers, d'artifices pour attaquer les policiers.
Oui, l'affaire vient nous démontrer, comme je disais, que le montage policier antiterroriste autour d'une affaire qui n'avait pas lieu d'être. Je veux dire, surtout que l'attentat en question allait causer 6 heures de retard tout au plus. Puis même si un train allait passer sur la ligne, il allait tout simplement s'arrêter. Je veux dire, il n'y avait aucune vie qui était mise en danger. Sauf que le responsable de l'enquête a eu le culot d'aller jusqu'à dire que plusieurs millions de personnes n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail. Puis ça, c'était un attentat sérieux. on voit à quel point il y a une volonté politique derrière tout ça de criminaliser la dissidence, de criminaliser... je veux dire, on s'attaque là essentiellement à une philosophie insurrectionnaliste de tendance, si on veut, anarchiste. Puis ça fait un peu peur de voir que l'État policier est prêt à tout pour... puis que finalement, ça lui fort entre les mains, c'est ça qui est con aussi.
Non, c'est ça... Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant à voir, l'évolution qu'il y a eu en France au niveau des policiers, au niveau des armes des policiers, au niveau de la présence policière dans les manifs, au niveau de... Ici, ils sont capables de remonter un autre spectre d'extrême-gauche comme ça pour faire peur à la population, monter un méga procès. Ils se rappellent, à la limite, les procès de l'Union soviétique. À chaque matin, dans les journaux, tu avais accès à « Ah, telle personne est un contre-révolutionnaire. » Là, c'est « Ah, telle personne est un terroriste, nanana. » Et là, qu'on te sorte plein de faits, et là, qu'on te dise « Ah, il a réussi à aller au Canada, il a passé les frontières. » Il essaye de se cacher et ça crée justement tout un imaginaire spectaculaire sur
quoi il y aurait... L'identité de Julien Coupa qui est au final un philosophe militant.
Non, c'est ça. Et à mon avis, il prône la révolution. Il pense que oui, il y a un problème dans la société, que le capitalisme est en train d'aller dans une forme de déchéance en ce moment, qu'il ne sait plus trop aller avec la crise économique. Mais...
Ça serait un peu comme criminaliser le fait que nous deux, on soit en train d'animer une émission libertaire qui se veut de tendance révolutionnaire, puis qu'on le prône au micro, puis on nous accuse de terrorisme. C'est à peu près une situation semblable. Mais ce qui pourrait être intéressant, j'ai quelques citations qui viennent d'un entretien qui a été fait avec le journal Le Monde. Puis, dans le fond, c'est Julien Coupa qui va s'exprimer sur diverses questions. Comme celle-ci, c'est à propos justement de l'insurrection qui vient. On lui demande si c'est lui l'auteur, seul qui le nie en disant « Je suis en revanche un lecteur. Le relisant pas plus tard que la semaine dernière, j'ai mieux compris la hargne hystérique que l'on met en haut lieu en pourchasser les auteurs présumés. Le scandale de ce livre, c'est que tout ce qui y figure est rigoureusement, catastrophiquement vrai et ne cesse de s'avérer chaque jour un peu plus. » Ce qui s'avère sous toute leader d'une crise économique, d'un effondrement de la confiance, d'un rejet massif des classes dirigeantes, c'est bien la fin d'une civilisation, l'implosion d'un paradigme, celui du gouvernement qui reléguait tout en Occident, le rapport des êtres à eux-mêmes, non moins que l'ordre politique, la religion et l'organisation des entreprises. Il y a à tous les échelons du présent une gigantesque perte de maîtrise à quoi aucun maraboutage policier n'offrira de remède. Puis, en parlant de la prison, ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a séjourné. Puis, il a d'ailleurs lu Michel Foucault, « Surveiller et punir », qui parle justement du système carcéral. Il va dire « La prison est le sale petit secret de la société française, qui d'ailleurs a une très grande population carcérale. La clé est non la marge des rapports sociaux la plus représentable. Ce qui se concentre ici en un tout compact, ce n'est pas un tas de barbares ensauvagés, comme on se plaît à le faire croire, mais bien l'ensemble des disciplines qui traitent au dehors l'existence dite normale. Surveillant, cantine, partie de foot dans la cour, emploi du temps, division, camaraderie, baston, laideur des architectures. Il faut avoir séjourné en prison pour comprendre la pleine mesure de ce que l'école, l'innocente école de la République, contient par exemple de carcéral. » Donc on voit qu'il reste extrêmement incisif dans sa critique, puis en tout cas, je pense que cette affaire-là doit nous démontrer à quel point le terrorisme, lorsqu'il en est question, mais en fait, quand on va parler d'antiterrorisme, c'est l'État qui est en train de le pratiquer. C'est l'État qui cherche à tous les moyens de se créer un ennemi pour pouvoir s'auto s'auto-reproduire au pouvoir, surtout chez les forces policières, c'est conserver les emplois, plus d'embauches, plus d'armes, carrément. Puis tout ce qu'on peut se dire, c'est la même chose, ça va péter, je veux dire, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. D'avoir des policiers de plus en plus armés, un peu plus belliqueux, puis des gens encore plus pauvres qui ne comprennent pas la source de leurs problèmes, sauf dans la mal répartition des richesses puis la classe politique, ben c'est normal que ça va casser, ça va péter, puis ça le fait déjà partout en France, en Grèce, aux États-Unis. C'est une question de temps ici aussi.
Mm-hmm. Donc, l'insurrection s'en vient?
Ouais, c'est ce que je crois.
C'est la question, je pense que c'est la question qui se pose, qui pose dans le texte justement, et que leur thèse de base, c'est que la civilisation actuelle, que notre système tel qu'il est actuellement ne peut que disparaître, et que c'est pas nécessairement un parti, le grand parti des travailleurs, le grand parti nanana, comme on a pu croire une autre époque, qui va l'amener, mais justement les individus de manière autonome qui vont s'organiser face à la réalité.
C'est d'ailleurs là la base, si on veut, du mouvement autonome, ce qui se veut une organisation directe par les gens. C'est ça, à travers souvent des actions qui sont violentes ou directes.
C'est un rejet de toute forme de parti, c'est un rejet aussi du syndicalisme, c'est un rejet de toute forme d'organisation, et ça pose des problèmes. Et le mouvement autonome, les totos, comme ils se font appeler en France, eux, ils sont quand même présents. Et moi, j'ai quand même des critiques face à tout ça, et j'ai parlé à certaines personnes qui, entre autres, ils sont tout le temps prêts dans les manifs à faire de la confrontation avec les policiers. Je pense que c'est pas mauvais de confronter les policiers. Au contraire, des fois, on doit réussir à atteindre nos buts et les policiers nous en empêchent. Mais par exemple, dans une manif de sans-papiers, ils sont allés essayer de faire une action directe face aux policiers. Ils s'attaquaient aux policiers alors qu'il y avait plusieurs immigrants sans-papiers qui risquaient leur vie dans la manifestation. Et il y a eu beaucoup de tensions qui se sont créées aussi avec d'autres organisations communistes et certains groupes anarchistes aussi. Et finalement, les gens sont venus à se battre entre eux. Il y avait d'un côté les totos, les autonomes, de l'autre côté quelques communistes, des anarchistes qui se sont tapés sur la gueule à la place de s'unir face aux policiers. Et c'est toute la question de la stratégie là, qui est posée.
Exactement.
C'est quoi qu'on peut faire, et c'est où qu'on s'en va, et c'est quoi nos perspectives dans la société actuelle pour créer un réel changement.
Surtout qu'en France, actuellement, il n'y a pas eu de regain pour la mouvance autonome ou les anarcho-libertaires, ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi.
Anarcho-autonome.
Oui, c'est ça. Mais ils utilisent tout simplement des termes pour faire peur. Ils cherchent un autre spectre à agiter. Et je veux dire, ils ont des bonnes occasions de le faire, parce que ça a de plus en plus de cas qui se fait, mais ce n'est pas non plus le compte d'un petit groupe d'individus qui sont organisés, pas du tout. Mm-hmm. C'est tout simplement des gens qui en ont marre. C'est des employés qui vont séquestrer leur patron. C'est des jeunes dans les banlieues qui n'ont rien de mieux à faire que de confronter les policiers, puisqu'ils sont tellement pauvres. Je veux dire, tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du terrorisme pour l'État. Mais non, le terrorisme, il vient de l'État, puis c'est lui qui le produit. C'est lui qui le produit encore plus, puisque en même temps, c'est là-dessus qu'il assise son pouvoir légitime. Mais au final, ça va venir à lui coûter la peau, là. En fait, c'est ce que je lui souhaite. Je sais pas, je crois qu'on va terminer donc l'émission là-dessus. On va aller écouter de la bonne musique, entre autres Mano Negra, puis Babylon Circus. Puis on peut se dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. On va voir si l'insurrection sera arrivée la semaine prochaine.